Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est au milieu des coteaux exposés plein sud, au bord d'une boucle du Tarn, que se niche le domaine d'Eddy, viticulteur à Candas en biodynamie. Il nous y reçoit en toute décontraction. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Alors je m'appelle Eddy Berthaud, je suis vigneron au village de Candas sur la commune de Mongeau.
Viticulteur, depuis combien de temps ?
Viticulteur ou vigneron ?
Au vigneron, je ne sais pas.
Ben, vigneron, on va considérer qu'il fait tout dans le métier, viticulteur qui cultive la vigne, comme les collègues qui portent un CAF coopératif, par exemple.
D'accord.
Alors, j'ai créé le domaine à Candas en 2000, tout rond, 1er janvier 2000.
Pour le nouveau millénaire.
Tout à fait, pour le nouveau millénaire. J'étais avant dans l'imprimerie, j'étais imprimeur, mais j'avais toujours un carré de vigne. Je faisais de la vigne, comme il y en a qui font du vélo le dimanche. Pour moi et les copains, s'il n'y avait pas eu l'avènement de la micro-informatique dans les arts graphiques, ça serait toujours comme ça. Et comme les ordinateurs ont tout bouleversé le monde des arts graphiques, que j'étais de l'ancienne école, à l'époque j'avais 40 ans, j'ai formé un jeune à qui j'ai revendu, entre guillemets, l'imprimerie, et moi ici, il s'est libéré 3 hectares de vignes et j'ai sauté sur l'occasion pour devenir vigneron. Il faut dire aussi que j'avais fait l'école d'agriculture en cursus traditionnel scolaire, le bac agricole.
Et toi, t'es issu d'un milieu agricole ?
Pas du tout. Mon père est photographeur, c'est pour ça que je suis tombé dans les arts graphiques pour savoir ce qu'il faisait comme métier. J'y ai passé 20 ans. Et puis, en sortant de l'école d'agriculture, donc dans la Brie, là-bas, dans l'Est parisien, j'ai voulu voir une autre agriculture. J'ai débarqué à la cavalerie, dans une ferme, là, donc au Vinlay. En 78. Alors de l'Abri au Larzac, oui, ça faisait un choc.
Mais débarquer à la cavalerie en 1978, c'était un contexte particulier.
Oui, j'étais pas au courant.
Ah ouais, t'étais pas au courant.
J'étais pas du tout au courant
de ça. C'était en plein contexte de lutte.
Tout à fait.
Du Larzac, quoi, qu'on appelle.
J'étais pas du tout au courant, et pour l'anecdote, quand je suis arrivé dans cette ferme, il n'y avait pas d'hommes. Donc il y avait le papy, le berger, la patronne et moi. Et le soir à table, j'ai dit, mais il n'y a pas d'hommes dans cette ferme. Et la femme me répond, non, ils sont tous à la marche. C'était donc la marche sur Paris pour le Larzac. Et alors, j'ai rien dit, mais je me suis pensé, mais ils ne sont pas bien. Avec le boulot qu'il y a, les types, ils vont se promener. Ils vont marcher. J'étais pas au courant du tout de ce qui se passait sur le Larzac, non.
D'accord. Voilà. Mais là, tu étais jeune, non ?
18 ans.
18 ans,
oui.
D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi le vin ?
La vigne, c'est parce que il y avait un morceau de vigne là que je me suis mis à travailler au début avec deux copains qui n'ont pas continué, ça a duré un an ou deux, mais moi j'ai continué. Pourquoi je suis passionné par le vin depuis que je suis tout petit ? C'est mon papa qui m'y a poussé, je ne le remercierai jamais assez. Donc j'avais des oncles là qui passaient des dimanches après-midi à table à siroter. Et moi, je les accompagnais, et comme je faisais le service, j'avais le droit de déguster tout petit. J'ai goûté les grands crus de France déjà.
D'accord.
Parce qu'à l'époque, c'était abordable. Même dans les familles nombreuses, une fois par mois, on pouvait mettre une belle bouteille sur la table. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est devenu hors de prix. Donc, par amour du vin.
Et alors, je crois savoir que tu pratiques une viticulture un peu particulière. Tu es en biodynamie, je crois.
Oui.
Toutes tes parcelles sont en biodynamie.
Oui, c'est une obligation.
Ça consiste en quoi, la biodynamie ?
Pour simplifier, parce que c'est un peu complexe, il y a 15 ans que je suis en biodynamie, je commence à y comprendre un peu quelque chose. Dans biodynamie, il y a bio, donc il faut être obligatoirement en bio. Et puis après, il y a dynamie. Et dans dynamie, on entend par là, par exemple, l'utilisation du dynamiseur qui nous permet de préparer certaines préparations spécifiques à la biodynamie. Et puis il y a surtout aussi tout ce qui est rythme cosmique, la dynamique cosmique, pas seulement la Lune, mais aussi les planètes et les constellations du zodiaque. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de travailler en relation avec ça. C'est le plus compliqué pour moi, d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, quand on veut. Et puis il y a, très important dans la biodynamie, la dynamique qu'on va impulser à la ferme. Parce qu'ici, c'est un domaine viticole, mais il y a les poules, il y a les brebis, il n'y a pas que le raisin. Il est compliqué, dans la biodynamie, il y a une notion d'organisme agricole, mais d'organisme en tant que tel. Comme nous, on est notre propre organisme, là. Dans la ferme, il doit y avoir un organisme, quelque part, qui permet à la ferme, sans parler d'autogestion, hein, qui permet de se suffire à elle-même, entre guillemets, parce qu'il va y avoir les animaux qui vont produire une partie du compost qui va permettre d'enrichir les terres, de nourrir les terres pour produire le reste de tout ce qui est végétal, quoi. Donc tout ça, c'est un organisme, dans cet organisme, pour essayer d'y impulser une certaine dynamique qui va faire en sorte que nous, on a des rendements, on a de très bons rendements sans apport d'aucun engrais, bien entendu, alors qu'il y a des engrais bio, hein, maintenant. Nous, absolument aucun engrais. Pas de maladies, ou très peu de maladies. Tout ça, c'est parce qu'on est en équilibre, là.
D'accord.
C'est un peu comme nous, hein. Si on est en équilibre, on tombe pas malade, quoi.
Si on est en bonne santé, en fait.
Si on est équilibré, en bonne santé, on tombe pas malade. On tombe malade quand on a trop tiré sur la bête. Ouais. Voilà. Voilà la biodynamie. Bien sûr, il y a l'utilisation des préparations spécifiques. Faut être en bio, et voilà, la partie dynamique, c'est ça qui est important. Donc, pour la petite histoire, ça a plus d'un siècle maintenant. Steiner a jeté les fondements de la biodynamie en 1922 ou 25, là, avec la rédaction du cours aux agriculteurs. Donc, c'est la plus vieille méthode bio au niveau de la planète, quoi, hein, c'est celle qui est la... Ce qui m'intéresse dans le vin biodynamique, c'est l'ivresse du vin biodynamique. Alors, je travaille là-dessus.
D'accord.
Depuis pas mal d'années, là.
Voilà. Les résultats sont concluants ?
Pour l'instant, les résultats sont concluants.
Très donc, bien.
Et voilà, au niveau gustatif, mais au niveau nutritionnel. Et j'ai poussé la balle un peu plus loin pour l'ivresse, là.
D'accord.
Parce qu'on fait du vin, il faut savoir que Steiner était complètement contre l'alcool ou des choses comme ça. Hein.
D'accord. Ouais. Ok. Pour en revenir à la ferme, tu as à peu près combien d'hectares ?
Là, on a 6 hectares en tout, donc 4,5 en production.
D'accord. Ça fait combien de pieds ?
Il y a 4000 pieds à l'hectare.
4000 pieds ?
Oui, sauf que moi, j'ai des très vieilles parcelles comme mon âge, à savoir un peu plus de 60 ans, où il reste la moitié des souches, quoi. Quand ça vient très vieux, on ne remplace plus après.
Et c'est quel cépage ?
Les trois principaux cépages. Moi, j'ai les cépages de l'appellation Côte de Millau, même si je ne suis plus dans l'appellation Côte de Millau. Donc, les principaux cépages, c'est la Syrah, le Gamay et le Cabernet.
D'accord.
Et le cépage de prédilection de la vallée du Tarn, c'était le Gamay. Avant, il n'y avait que du Gamay partout.
D'accord. Et tu ne produis que du rouge ou
t'as d'autres... rosé, on fait un peu de rosé parce que c'est bien sympathique l'été avec les copains. Pour moi, ça n'a rien de sérieux, contrairement à ce que pensent beaucoup d'œnologues.
Ouais.
Non, moi, il n'y a que les grands rouges qui m'intéressent. Et l'année dernière, on a planté un peu de blanc. Pour Martine, qui est fille de vigneron alsacien, elle va nous vinifier un peu de blanc quand même. Voilà.
À la méthode alsacienne ?
Non, non, pas du tout. On a planté du chenin, pour, c'est le cépage de l'appellation d'ici là.
Et tu sais dire à peu près combien d'hectolitres tu produis par an ?
Une centaine.
Une centaine ?
Oui. On a eu descendu parce que je suis passé par des creux, là, on va dire. À 50, on monte à 120. Une centaine, ce n'est pas tout à fait suffisant, mais voilà, on fait une centaine d'hectos par an. Ouais. L'année dernière, on a fait 100 hectos.
D'accord. Mais puisqu'on a pas, est-ce que tu en vis bien aujourd'hui ? Non ?
Non, non, mais on ne fait pas ça pour devenir millionnaire, parce qu'on n'est pas dans la bonne appellation. S'il y avait marqué Châteauneuf-du-Pape sur les bouteilles, voilà, ça serait autre chose. Et on gagne beaucoup d'argent dans la viticulture si on a une belle appellation, quoi. Non, nous, ce n'est pas du tout connu. Bon, moi, en plus, j'ai quitté pour des raisons personnelles l'appellation. Non, non, on n'en vit pas bien, mais après, qu'est-ce que ça veut dire en vivre bien, hein ?
Bah, pouvoir, mais quand tu as une grosse panne, pouvoir faire les réparations sans que ça te coûte un bras.
Il vaut mieux être un peu débrouillard.
Ouais,
oui.
Dans l'agriculture en général.
Oui, moi, j'ai 2 diplômes de machinisme agricole. Il me reste surtout les diplômes, d'ailleurs. Mais enfin, ça me sert bien, quoi. Mais après, oui, il faut pouvoir... mais on ne peut pas investir comme on voudrait, on peut pas... Hein. Non, non, c'est trop petit. On est trop petit pour pouvoir en vivre. Mais c'est une autre vision des choses. Nous, on est pratiquement autonome en maraîchage. On est autonome en viande. Martine fait le pain toutes les semaines. Donc après, et puis, on a peu de besoins, hein, puisqu'on travaille beaucoup, on n'a pas le choix. Il faut payer les factures des fournisseurs, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. On n'en vit pas suffisamment, mais on vit très bien. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc, on a, au niveau De la nourriture, on n'a que des produits de qualité, donc même si on ne les a pas en quantité. Mais on vit très bien de ce côté-là. Après, il ne faut pas vouloir faire ce métier dans des petits domaines comme les nôtres pour gagner de l'argent. C'est pas... Ou alors, il faudrait trouver rentrer à une cuvée extraordinaire à un endroit où ils vous la payent 20 euros la bouteille au lieu de 6. Et là, voilà, ça pourrait gagner de l'argent.
Et justement, puisque tu viens, comment tu vends ta production ?
On vend beaucoup en direct.
En direct. Ici,
ici au caveau. Ouais. Avant, on faisait beaucoup les marchés de producteurs, avant qu'il y ait des histoires de confinement et donc que ces marchés soient plus ou moins arrêtés là. Et puis après, tous les magasins bio de la région là, sur Montpellier aussi.
D'accord, Sainte-Afrique, Millau, Montpellier.
Ouais, Rodez.
Et est-ce que tu sais me dire la part de ce que tu vends ici et la part de ce que tu vends en boutique ? Ça représente à peu près combien ? Un tiers ?
Jusqu'à ce qu'on arrête ces marchés nocturnes où on travaillait très fort l'été, parce que je connais beaucoup de monde dans le pays, que ça soit dans tout le sud d'Aveyron. On faisait la moitié en direct, la moitié dans les magasins. Le but de la manœuvre, c'est de vendre en direct, mais bon.
Et oui, t'as la marge meilleure.
Et la marge est bien plus importante, ouais.
Voilà. Puis c'est toi qui fixes le prix.
À peu près, oui, oui, en restant raisonnable. Mais quand on a des jolis vins, nous, ils sont régulièrement récompensés. Il y a les médailles là derrière, ou dans les journaux. Là, on est dans le Goemio cette année aussi. Okay. Donc là, on arrive à justifier un certain prix, quoi.
D'accord. On va passer à des questions d'ordre un peu plus général. Est-ce que ce métier-là, puisque tu as parlé de transmission bientôt, j'imagine que oui, tu vas le conseiller à quelqu'un qui veut se lancer. Et si tu le conseilles, tu mets en garde sur quoi ?
Ben, je le conseille. C'est-à-dire que moi, je considère, c'est la deuxième entreprise que je vais essayer de transmettre, au même titre que j'ai transmis l'imprimerie. Quand on s'est échiné à faire ce que j'ai fait, ben, le mieux, c'est de le voir perdurer, quoi. Donc de le transmettre à qui que ce soit, mais de le transmettre. Donc Martine est plus jeune que moi, elle continuera, si c'est moi qui pars en premier. Le fiston, peut-être un jour, il reviendra, sinon un autre jeune. Je le conseille pour... Oui, je peux le conseiller. Il suffit de ne pas avoir peur du travail. Parce que nous, c'est vraiment beaucoup de travail. En conventionnel, c'est plus simple, puisqu'on a des produits qui nous aident. Moi, j'étais en conventionnel au début des années 2000, là. Mais en bio, et surtout en biodynamie, là, c'est physique et compliqué. Faut aimer le physique, faut aimer taper dedans, voilà. Et après, oui, parce que c'est un métier extraordinaire, de voir venir les raisins, de faire le vin ensuite, de savoir que ce vin va, entre guillemets, réjouir le cœur des hommes, et des femmes, bien sûr, puisque le bon vin, pour qu'il profite aux hommes, faut que ça soit avec des dames qui le boivent, on est d'accord. Mais oui, on peut le conseiller, mais dans notre pays, c'est un métier dur. Après, l'intérêt de le faire dans notre pays, ben voilà, c'est que c'est un autre challenge, quoi. C'est notre... j'aurais pu employer un terme français, mais bon. Et puis, c'est pas simple, ici, il n'y a absolument rien pour la viticulture. Dans l'Aveyron, si on fait du lait, de la viande, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les coopératives agricoles, il y a les magasins et tout. Nous, dès qu'on veut quelque chose, il faut aller ou à Béziers ou à Gaillac. C'est un peu compliqué, quoi. C'est pareil au niveau des conseils. Il n'y a pas de conseils ici. Alors que la Chambre d'agriculture de l'Hérault, Languedoc-Roussillon, c'est le plus grand vignoble du monde. Donc il y a les conseillers, ils savent de quoi ils parlent. Enfin voilà, nous ici, il faut un peu se débrouiller tout seul. C'est pas simple. Mais voilà, il faut avoir envie de faire autre chose. Mais sinon, c'est une superbe démarche, oui, quand on fait déguster les vins, là, c'est sympathique. La partie vinification, moi, tout me passionne dans ce métier, même la comptabilité. Ça, c'est un peu par force, parce que si, c'est pas drôle si en plus on le fait sans goût, ça va être pire. Mais tout est passionnant, de la culture de la vigne à la vinification. C'est difficile de porter toutes les casquettes. Moi, je suis meilleur à la vinification que dans les vignes. C'est pour ça que j'essaye de passer avant d'arrêter beaucoup de temps dans les vignes pour rééquilibrer un peu la chose. Sinon, j'étais meilleur à la vinification. Non, c'est un métier extraordinaire, oui. Mais très physique.
Et c'est ma grande question philosophique. Ça fait 20 ans que tu fais de la vigne. Est-ce que tu as une idée de ce que deviendra l'agriculture ou la viticulture dans les années à venir, dans 10 ans, dans 20 ans ?
C'est une grande question. Au niveau du domaine Berthaud, qui s'appelle d'ailleurs depuis le 19 juin Berthaud Stessel, du nom de Martine, puisqu'on s'est marié le 19 juin.
De cette année.
De cette année, ah, ouais, c'est tout neuf. On n'a pas eu le droit de faire la fête, mais je me rattraperai. On se rattrapera. Eh bien, le domaine Berthaud, ouais, faut qu'il perdure, et si possible, dans la même voie. Parce qu'en bio, ou en biodynamie surtout, l'acquisition de l'expérience, quoi, c'est énorme. Ça aide énormément. Donc si je peux transmettre l'expérience, que le jeune qui vient derrière moi, il repart déjà avec ce bagage, il va encore pouvoir aller un peu plus loin, quoi, hein, dans la réduction des produits phyto, dans plein de choses, dans plein de domaines. Après, l'agriculture, comme elle est menée aujourd'hui, ben, il y a très longtemps qu'on pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. La France, c'est tellement extraordinaire. Ce matin, je livrais dans les gorges du Tarn. J'y vais avec plaisir, même si malheureusement, on y passe beaucoup de temps sur la route.
Ouais.
Mais la France, il faudrait s'en servir comme d'un jardin. C'est la première destination mondiale au niveau touristique. Mais si en plus, on pouvait faire comme un jardin, entre guillemets, plutôt que d'aller faire trop des fermes de 1000 vaches ou des choses comme ça, quoi, hein. Moi, j'ai plein d'amis en conventionnel, j'ai rien contre les conventionnels. Il faut de tout pour faire un monde. On a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin, c'est tout. En conventionnel, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain, on le sait. Mais voilà, donc l'agriculture française, je sais pas. Après, l'agriculture, ce qui serait bien et juste, ça serait que l'agriculture retrouve sa place, à savoir de nourrir les hommes, tous les hommes, avec des produits de qualité, ça veut rien dire, la qualité, avec des produits qui nourrissent bien, quoi.
Des produits sains.
Des produits sains qui nourrissent bien, parce que si on est bien nourri, on réfléchit mieux, hein.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre sobre. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne, au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine, les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Ça, c'est le dynamiseur.
C'est tout petit comme machine.
Oui.
Donc c'est lui.
Il y en a
lui,
beaucoup.
Lui permet de...
on va le confirmer.
D'agir sur le vin et de le rendre en biodynamique.
Non. Ça, c'est une machine qui va nous permettre de dynamiser de l'eau.
De l'eau.
Oui.
D'accord.
On va le faire.
Ok.
On va voir. C'est avec ça qu'on va dynamiser les préparations biodynamiques, mais les tisanes aussi, j'en ai pas parlé, mais on fait beaucoup ici, tiens, tu vois, regarde, osier, ortie.
D'accord.
Tu vois, tisane.
Tisane.
23 litres divisé par 5 hectares, enfin bon.
D'accord.
Et...
Oh ben là, déjà, on voit, alors, 1, 2, 3, 4, 5 cuves de 50 hectolitres, plus une de 30 hectolitres.
Ouais, de 30, là. D'accord. Oui, bah, il faut tout en double là.
Ah oui, pour d'une année sur l'autre.
Non, pour transvaser.
Ah d'accord.
Enfin, tout en double, c'est pas tout en double, mais quand une cuve est pleine, il faut la vider dans une autre si on veut la manipuler, quoi. Donc il faut avoir. Il en faut de la cuverie, quoi.
D'accord.
Et puis quand on vinifie les cépages séparément, pas toujours, mais des fois on vinifie séparément. Voilà, donc il y a une cuve où il y a le gamay, une cuve cabernet, une cuve la syrah. Ça, sont des cuves de vinification avec les trappes, là.
Ouais.
Ça, c'est une cuve que j'ai modifiée, moi, pour faire de la macération carbonique. Donc, on la chauffe dessous, là. L'isolation pour qu'elle reste... pour qu'on ait moins à chauffer. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est une technique du Beaujolais. Ouais, que j'utilise tous les ans, maintenant. Ça sort beaucoup plus d'arômes. Mais c'est pour les vins jeunes.
D'accord.
C'est pour l'ivresse à court terme.
D'accord.
Allez, de l'eau. Eh ben, on va le remplir avec ça. Là, on dynamise l'eau.
D'accord. Ça bouleverse un peu chimiquement l'eau ? Ça la modifie ?
Pas chimiquement. Ça fait ce qui se passe. Je sais qu'il se passe la même chose pour l'homéopathie. Mmh. Et donc, par exemple, là, quand on utilise, il y a certaines préparations, on met 4 grammes hectare, c'est-à-dire rien du tout.
D'accord.
Hein?
Oui.
La silice de corne, la bouse de corne, on met 100 grammes hectare. C'est aussi ridicule. Mmh. Non, le fait de dynamiser l'eau, c'est pour que l'eau, entre guillemets, fasse passer le message plus facilement à la plante. Voilà, ça paraît un peu compliqué, mais j'ai lu des fois des phrases 10 fois avant d'arriver à comprendre un morceau. Et des fois, même dans le litré, j'ai pas trouvé les mots.
D'accord, hein? Ah oula.
Donc c'est un peu...
Ah, d'accord.
Voilà, tout à fait. Ça, c'était au début. Alors, j'avais pas trouvé dans le Larousse, donc j'ai ouvert le litré.
Ouais.
J'ai trouvé. Et puis, une phrase un peu plus loin, je trouve un autre mot que je connais pas. Je vais directement dans le litré. Il n'y était pas.
Il n'y était pas.
Voilà.
Eh ben. Et alors, tu fais comment? Tu demandes aux copains ou...
Non, on est... Oui. Ben, des copains, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on est peu, hein. On est 400 vignerons en France à faire de la biodynamie.
D'accord.
C'est très peu nombreux. Ah. Non, on lit beaucoup. On lit beaucoup. Voilà, on a des revues un peu spécialisées quand même. Et puis, oui, j'ai encore un conseiller en biodynamie, quand même, hein, qui nous a quittés il y a quelques années, mais son fils a repris le flambeau. Donc là, on a des réponses aux questions qu'on se pose. Donc voilà, la dynamisation de l'eau, c'est ça. C'est pas, on la bouge pas chimiquement, mais ça va permettre le message, de faire passer le message qu'on veut envoyer à travers les préparations plus facilement à la plante. Elle va être plus en osmose avec le végétal, l'eau. Quand elle va arriver sur le végétal.
D'accord.
Hein, pour moi, c'est surtout ça, la dynamisation.
Et alors, tu l'appliques comment après? Tu la pulvérises?
On la pulvérise.
D'accord.
Ou pas. Alors, donc, c'est pareil. Pour faire de la biodynamie, c'est un peu compliqué.
Et comment tu as fait, toi, pour te former en biodynamie?
J'ai fait des formations, beaucoup là.
En France? Ouais.
Oui, en France, oui. D'accord. Dans l'Hérault, un peu partout. Il y en a dans l'Aveyron, régulièrement.
J'en ai mis 2, hein, oui.
Il y en a régulièrement dans l'Aveyron. Et puis voilà, avec un conseiller, Pierre Masson, qui nous a quittés malheureusement il y a 3 ans maintenant, là, qui était ingénieur agronome et qui était versé dans la biodynamie.
D'accord.
Il y a quand même un syndicat au niveau national de la culture biodynamique, là, le MABD, le mouvement d'agriculture biodynamique. Non, on a de quoi faire si on veut apprendre. Hein.
D'accord.
On a les bouquins sur la biodynamie, on a pas mal de choses. Hein.
D'accord.
Et puis après l'expérience et un peu d'échange, mais c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué parce que
On est deux vignerons en biodynamie dans l'Aveyron.
Ouais. Ça fait pas beaucoup.
Il se trouve où l'autre ?
À Marciac.
Marciac.
Ouais. Mon ami Yvan-Marie Ruffier.
Je vais la régler, tu vas voir, ça va faire un son sympa. On va voir si ça se met en route. Voilà, donc là, on crée le vortex.
Ouais.
Et à un moment, ça doit s'arrêter et partir dans l'autre sens.
Ah oui.
Parfait.
Au plan.
Ouais.
J'étais surpris. Ouais. D'accord.
Et ça, c'est pendant une heure.
Pendant une heure.
Ouais, donc j'ai des copains, ils font à la main, c'est bon.
Ouais. Ils sont motivés.
Oui, oui, oui.
Et donc, c'est ce vortex, en fait, c'est faire entrer de l'oxygène dans l'eau, quelque part, que ça fait là.
Oui, 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 ça oxygène l'eau. Mmh. Et ça modifie peut-être la structure de l'eau, mais pas au niveau chimique.
D'accord. Oui, ça reste H2O, quand même.
Oui, voilà. Oui, oui, oui. Après, d'ailleurs, ça modifie forcément, oui. Et il faut aller très... il faut aller vite. Il faut pas, après la dynamisation qui dure une heure, pour ces préparations-là, il ne faut pas attendre trois heures pour aller la mettre au champ. Quoi, hein.
Dès que c'est fini, tu vas.
Ah oui, il faut y aller le plus rapidement possible.
D'accord.
C'est pour ça d'ailleurs qu'à la main c'est problématique. C'est pour, avec le quad, ça va tout seul. Ouais. Et puis en plus, le quad, comme c'est relativement plus facile, sauf dans nos travers là, mais enfin c'est plus facile qu'à pied, on y va avec un peu plus de bonne volonté, quoi, avec un peu plus d'envie. Ouais.
C'est une machine que tu as achetée ou...
Oui, que d'accord. J'ai récupérée d'occasion.
D'accord.
Voilà. Ah, mais ça, on devrait arriver à faire un peu de son.
Alors là, Eddy pose les bouteilles sur une espèce de tapis.
Le convoyeur.
Le convoyeur, d'accord. Et la mise en place. Hein. Mise en route.
Voilà. Attends. Parce que comme elle n'est pas dans sa config de fonctionner, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui se coince. Ouais. Sinon, ça va faire mieux.
Donc les bouteilles avancent, elles arrivent sur un plateau. Hop, ça tourne. La sertisseuse se met dessus. Puis, l'endroit pour coller les étiquettes. Là, ça fait poser une étiquette. Un petit tampon, j'imagine, pour bien faire adhérer l'étiquette. Et puis, elle est poussée sur un autre tapis. Et c'est fini. Voilà. Et il y a 5 bouteilles à la fois sur le tourniquet.
Voilà, on peut tourner à vitesse raisonnable 500 bouteilles heure.
500 bouteilles heure.
Oui.
Tu peux varier la vitesse dessus ?
Oui, on peut varier la vitesse.
D'accord.
Avec un variateur.
D'accord.
Un courroie qui est là, comme sur les mobilettes.
Ah oui, c'est et... genre tu changes de pignon et ça va plus vite ?
Ouais, ouais, c'est un pignon qui s'écarte ou qui se resserre.
D'accord.
Et donc, ça change la démultiplication. Bon, 500 bouteilleurs, n'importe quelle machine un peu moderne, on rajoute un zéro. C'est 5000 bouteilleurs. Mais nous, bon, on fait 12 000 bouteilles par an.
Ouais.
Donc sur une journée, on va compter 6 heures parce qu'il y a le temps de mise en route, le temps de nettoyage. Bon, 6 fois, 3 000 bouteilles, on fait, oui, dans la journée. On d'accord. En fait 12 000 par an.
Ouais, 12 000.
Ouais, ça fait, on
ça y fait passe 24
ouais.
heures de...
Ouais, voilà, c'est pas grand-chose.
D'accord.
Donc ça suffit largement. Et quand ça marche bien, tu vois.
Ouais.
En ce moment, elle nous emmerde. Je pense que ça vient des imprimeurs, là, du papier.
Et combien de temps tu laisses vinifier le vin, une fois que tu le mets en cuve ? C'est-à-dire combien de temps, à peu près ?
Les fermentations, une huitaine de jours. Après, on peut laisser plus ou moins macération. Hein, les fermentations alcooliques, donc la transformation des sucres en alcool, ouais, une huitaine de jours, c'est fait.
Donc, entre le moment où tu vendanges et le moment où tu mets en bouteille...
Ah, combien de temps il peut se passer là ?
Ouais.
Eh bien, ça va dépendre de beaucoup de choses, surtout du vin qu'on veut faire, qu'on veut commercialiser.
Ouais. Et sur les vins de garde, c'est les vins que tu gardes combien de temps, en fait, dans ta cave à toi ?
Ah, nous, là, il va faire un peu plus de macération après la fermentation alcoolique, là. Il va y avoir du travail en cuve pour extraire, surtout les tanins, mais aussi la couleur. Mais pour les vins de garde, c'est les tanins qui nous intéressent. Donc on va travailler en cuve, là il va rester plus longtemps que l'autre vin. Et puis après il va partir dans les fûts à la cave, là. Il reste un an et demi, deux ans, ça dépend des vins, ça dépend des fûts. C'est encore toute une autre histoire, ça.
Et le client, quand il a ce vin-là, il peut le garder combien de temps ?
Alors, il peut le garder, là, chez Berthaud, puisque l'année dernière, s'il n'y avait pas eu ces chinoiseries, On devait faire les 20 ans du domaine, puisque j'ai créé en 2000. Et donc, on dégustait 2000.
Ah.
J'ai 2000, là. J'ai 10 cartons de 2000.
D'accord.
On peut l'ouvrir et c'est tout à fait... C'est pas un grand vin, mais c'est encore tout à fait dégustable. Chez moi, les deux oliviers, là, le grand vin de la maison, ça se garde 10 ans, sans problème.
D'accord.
D'ailleurs, au Vendange, tous les ans, on goûte les 10 ans d'avant.
Ah ouais ?
Oui, cette année, on va goûter 2011.
Ok.
Quand il y a les arômes qui sont très présents comme ça, c'est pas tout à fait normal. Les grands vins ont tous des nez complexes, où il est difficile, c'est une histoire de dégustation, c'est la base du métier ça. Les vignerons, je vois plein de jeunes s'installer, qui s'intéressent à la culture de la vigne et à la vinification. Il faut d'abord qu'ils s'intéressent à la dégustation. Il faut déguster, dans la vie, tout. Même les gens, pas que le vin. Non mais c'est la dégustation, hein, c'est très important. Quand il y a des choses comme ça qui sont trop marquées, trop présentes, c'est qu'on les a mis en place. Hein, les grands vins, ils ont des nez complexes, et nous-mêmes, dégustateurs, on a du mal à deviner. Donc, il ne faut pas déguster tout seul, parce que sinon, on finit alcoolo. Il faut déguster à plusieurs. Il y en a un qui va dire, tiens, on dirait des fruits rouges, par exemple. Ouais. Ah oui, mais quoi ? La cerise ? Non, peut-être plutôt de la framboise. Voilà, c'est comme ça qu'on avance.
D'accord.
Et surtout, il ne faut pas avoir peur de dire des bêtises à la dégustation. Il faut dire ce qui se passe par la tête, quoi. S'il y a des choses, c'est la dégustation, c'est un monde fabuleux. Tout est absolument fabuleux dans ce métier, quoi. Et la dégustation, ouais, parce que c'est... Nous, on déguste, tout le dimanche matin, là, on déguste les vins des copains.
Ouais.
Tu vois, le dimanche matin, au début, Martine, elle m'a dit, on bosse pas quand même aujourd'hui. J'y ai parlé, bien sûr que si. Alors là, elle a fait un peu la tête et je suis remonté avec deux cartouches de domaine d'un copain, là.
Ouais.
Et j'ai dit, là, on bosse. Donc on a un cahier de dégustation et le dimanche, avant de se mettre à table... Il faut être tout neuf un peu, hein, au niveau de la bouche, il ne faut pas avoir fumé, il ne faut pas avoir bu de café, des choses comme ça. On déguste et on écrit. Et si c'est bon, on y envoie les commentaires. Si ce n'est pas bon, on les garde pour nous.
D'accord. Comme ça, on reste copains.
Voilà, tout à fait. Bon, super. On en a fait assez ?
Ouais.
Hein ?
Alors, la petite conclusion. Merci beaucoup, Eddy, de nous avoir reçus. Et puis, une bonne continuation.
Ça marche, un bon millésime pour 2020.
Ouais, un bon
millésime.
C'est
tout ce que je peux me souhaiter.
Voilà. Merci Eddy.
Merci à toi.
Un grand merci à Eddy pour son accueil et ses explications exhaustives. Vous pouvez retrouver ce programme ainsi que tous les précédents sur le site radiosaintafrique.com, rubrique Parole rurale. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.